Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous allons parler de transformation agricole en Afrique et de cybersécurité. Ce sera d'abord dans le Zoom Express avec l'expert du secteur de l'agroalimentaire en Afrique, Hervé Omva. Il nous parlera des évolutions du secteur de la transformation agricole, mais aussi de celui de l'agroalimentaire sur le continent. Notre invité s'appelle Pascal Naudin, il est directeur commercial de Kaspersky en Afrique francophone. Avec lui, nous ferons le point sur l'évolution des cyberattaques en Afrique. Nous l'écouterons dans quelques instants. Et notre destination éco nous mène au Rwanda, au pays des mille collines. Le Rwanda, une des économies africaines les plus dynamiques ces dernières années. Nous serons sur place en compagnie de Moustapha El-Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Tels sont les principaux sujets de Coémergence. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Le Salon international de l'agriculture au Maroc est l'occasion pour le Royaume de partager son expérience dans le domaine agricole. Justement, comment va ce secteur ainsi que celui de l'agroalimentaire dans le continent? On en parle avec Hervé Omva, il est expert producteur dans le domaine agricole. Bonjour à vous, Hervé Omva.
Bonjour, Monsieur Omar.
Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment va le secteur de l'agroalimentaire en Afrique avec la crise en Ukraine et toute cette flambée qu'on a connue sur les matières premières. Comment va l'agroalimentaire en Afrique, Hervé Omva?
Mais déjà merci encore pour l'opportunité que vous nous offrez pour donner notre avis sur le secteur agroalimentaire en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que tout le monde a paniqué, le monde de manière générale et l'Afrique en particulier, sachant que nous sortions de la COVID-19, nous avons pris peur. Mais petit à petit, on constate que la transformation agroalimentaire en Afrique, qui aujourd'hui présente des énormes opportunités, mais également, il y a des défis qui subsistent. Et on voit de l'Égypte en passant par le Maroc, l'Algérie, en arrivant en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et en descendant en Afrique australe avec la Zambie, le Zimbabwe, il y a même le Ghana, il y a un élan, il y a une dynamique qui est mise en place. Et donc, nous pensons que grâce à cette dynamique qui est mise en place, aux gros investissements qui sont faits par plusieurs États, on parle aujourd'hui d'investissements en millions de dollars dans le secteur agricole, nous pensons que malgré les défis qui subsistent, l'agriculture, l'agroalimentaire africain, notre agriculture présente des opportunités très importantes, Omar.
Des opportunités très importantes. Alors, qui parle de ces opportunités, justement, doit certainement évoquer la question de la transformation locale. On sait tous que l'Afrique est le continent agricole, en tout cas en termes d'opportunités agricoles, est le continent donc par excellence qui dispose de ses ressources. Mais qu'en est-il de la transformation locale de ces produits agricoles, Hervé Omva?
Vous savez, une crise amène ou conduit à une réflexion. Et l'Afrique s'est mise justement dans ce processus de réflexion. Et c'est pour ça que vous voyez dans plusieurs pays aujourd'hui, les investissements sont en train de se faire dans le secteur de la transformation. D'accord, nous produisons, nous vendions à l'époque des produits bruts, mais de manière générale, depuis 2 ans, on constate que plusieurs pays sont en train de mettre en place des mécanismes de transformation. Cette transformation-là crée une nouvelle vague d'entrepreneurs. Je peux vous donner un exemple avec la tomate au Nigeria. Le Nigeria produit de la tomate, le Nigeria transforme sa tomate. On prendra le même exemple au niveau de la Zambie. La Zambie produit du blé, il transforme son blé. La même chose est en train de se faire dans plusieurs pays sur le manioc. On retrouve beaucoup de firmes qui font dans la transformation du manioc aujourd'hui en Afrique. C'est pareil pour le maïs. Donc, l'Afrique, on était en dernier dans ce positionnement de transformation, mais la situation actuelle, la crise actuelle, nous conduit à mettre en place des outils de transformation qu'on trouve un peu partout dans les grands pays agricoles africains.
Mmh. Alors, une dernière question, Hervé Omva. Quels sont les produits qui offrent le plus d'opportunités pour les investisseurs qui souhaitent se lancer dans la transformation des produits agricoles en Afrique?
Aujourd'hui en Afrique, je vous dirais principalement, vous avez des produits tels que le maïs, la chaîne de valeur qui est très importante, aussi bien pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale. Vous avez également la même chose pour le manioc, le café, le cacao, la canne à sucre. Et aujourd'hui, l'Afrique a des terres, l'Afrique a des hommes d'expertise, l'Afrique a également l'énergie capable d'installer des unités de transformation.
Mmh, l'Afrique, donc, a les hommes, la matière, mais aussi l'énergie, de procéder à ces transformations sur le plan agricole. Merci à vous, Hervé Omva. Je rappelle que vous êtes expert du secteur de l'agroalimentaire en Afrique. Merci à vous pour ces réponses dans Coémergence.
Merci beaucoup.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Pascal Nodin. Il est le directeur commercial de Kaspersky en Afrique francophone. Bonjour et bienvenue à vous, Pascal Nodin, dans Coémergence. Avec vous, nous allons parler de cybersécurité. Je le disais tout à l'heure, chaque semaine, plus de 1800 cyberattaques sont enregistrées en Afrique. Mais Pascal Nodin, tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est la cybersécurité.
La cybersécurité, c'est un ensemble de méthodes et de protocoles qui vont permettre aux entreprises digitalisées de se protéger contre les menaces externes, mais aussi internes. Donc ce sont à la fois la mise en place de certains outils qui peuvent être des normes, qui peuvent être des façons de travailler, des façons d'utiliser certains produits, mais aussi des outils de sécurité qui vont permettre d'éviter à ce que des personnes étrangères à l'organisation puissent y pénétrer, puissent y voler des données, mais également des personnes internes à l'organisation qui pourraient, pour différentes raisons, récupérer de la donnée, parce qu'on parle bien d'une ère de la guerre qui est la donnée, donc récupérer de la donnée pour l'exfiltrer, pour en faire, je ne sais quoi, la vendre ou la mettre à disposition de quelqu'un d'autre.
Alors, quand on voit les différentes attaques, cyberattaques en Afrique, on dit qu'en semaine, on en compte 1800 environ. Quels sont les types d'attaques, de cyberattaques les plus fréquents en Afrique?
Alors aujourd'hui, on surfe, j'ai envie de dire, sur les mêmes cyberattaques qu'au niveau mondial. C'est-à-dire, en fait, ce sont des attaques par phishing et qui devraient permettre, si l'utilisateur clique sur le lien qu'il a reçu dans sa messagerie, de pouvoir lancer un petit programme d'hameçonnage qui va permettre ensuite de ce qu'on appelle chiffrer les données des postes, alors soit du poste en question, mais aussi des postes connectés au réseau de l'entreprise, dans le but de demander une rançon pour la libération des données. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que donc les ransomware, on pensait que ça allait, on va dire que ça allait s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas pour une simple et bonne raison, c'est que les ransomware aujourd'hui sont une véritable source de gains d'argent, parce que les hackers aujourd'hui, ce qui les intéresse, j'ai envie de dire presque comme tout le monde, c'est l'argent. Donc, ils sont intéressés par l'argent facile, donc ils attaquent tout azimut, j'ai envie de dire l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, tous les pays sont concernés de la même manière.
Alors, est-ce qu'en Afrique, vous pensez que les pays, les entreprises sont suffisamment outillés et suffisamment alertes pour faire face à ces cyberattaques ?
Ça dépend de deux choses. J'ai envie de dire, ça dépend, un, du type d'organisation, enfin du type de l'entreprise. Il est évident qu'aujourd'hui, les entreprises les plus sensibilisées à ce type d'attaque sont, à notre niveau, celles qui brassent, on va dire, de l'argent et celles qui ont leur outil de production basé uniquement sur le numérique. Et je parlerai des banques et des assurances qui, eux, ont déjà, on va dire, les technologies les plus avancées pour éviter, on va dire, toutes ces sortes d'attaques. Ça, c'est une première chose. Et puis après, on va voir en fonction de la taille de l'entreprise, de la sensibilisation de la cybersécurité de la part des dirigeants, eh bien, plus ou moins de moyens qui vont être mis en place. Et c'est ce qui va faire la différence. La différence, c'est vraiment les moyens financiers que les entreprises vont vouloir mettre en place pour sauvegarder leurs données, quoi.
Quelles solutions, notamment en Afrique par exemple, quel type de solutions proposez-vous pour faire face à ces cyberattaques ?
Alors j'ai envie de dire, la première qu'on propose, c'est, je vous en ai parlé, c'est la sensibilisation. Alors là, c'est même pas un outil, c'est une plateforme où on va former les gens aux bonnes utilisations de l'outil informatique dans l'entreprise. Donc, il faut savoir que lorsque vous formez et vous sensibilisez vos collaborateurs aux bonnes pratiques informatiques, vous allez éviter, on va dire, 90% des attaques. C'est-à-dire que vous serez toujours autant attaqué, mais vous aurez beaucoup moins de chances qu'un utilisateur clique dessus et lance à son, on va dire, à son insu, l'attaque contre lui-même. Le deuxième produit que commercialise Kaspersky, c'est ce qui a fait, on va dire, notre succès depuis des années, c'est tous les outils de sécurité. Alors les outils de sécurité, le plus connu, c'est, si je vous dis Kaspersky, vous allez me répondre antivirus. Ça c'est la base. Et puis ensuite derrière, nous avons des technologies qui vont très très loin, ou sur lesquelles on est capable d'analyser tous les flux sur un réseau, pour ensuite ce que j'appellerais les corréler et voir s'il n'y a pas d'anomalies et d'attaques qui seraient en cours. Je vais m'arrêter là parce qu'après ça devient assez complexe et j'ai pas envie de noyer tout le monde.
Je pense que le message principal est compris. Maintenant, pensez-vous que les entreprises africaines, les États africains investissent suffisamment dans la cybersécurité à l'heure où on parle de cyberimmunité ?
Ça tombe bien, vous parlez de cyberimmunité parce que la cyberimmunité, c'est vraiment un des... j'ai envie de dire, pour une fois, c'est notre patron Eugène Kaspersky qui en a presque parlé en premier il y a quelques années, donc... assez content, oui. Donc, alors, ça investit, pas forcément là où on pense que ça devrait être, mais il y a une véritable prise de conscience. Les États ont vraiment pris conscience que la digitalisation est là. On peut pas faire marche en arrière, d'accord. Même si on aime ou on n'aime pas les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui on donne nos données, on va dire aux GAFA et à d'autres. Même si ça plaît pas, c'est comme ça. On peut peut-être freiner le mouvement, mais pas l'arrêter. Et là, c'est pareil, la digitalisation, c'est vraiment un enjeu principal, quoi. Et je pense que les entreprises africaines et les gouvernements africains ont compris l'importance de cette digitalisation, parce qu'on le voit de plus en plus. La législation commence à s'adapter. Il y a de moins en moins de pays d'Afrique qui n'ont pas de loi pour la protection de la donnée à caractère personnel. Tout le monde commence à faire ses lois, et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc ça veut dire que voilà, il y a une véritable prise de conscience. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller aussi un petit peu plus loin, mettre les moyens pour éviter que les systèmes d'information soient trop ouverts et trop exposés aux menaces.
Alors, une dernière question. Si on se projette sur l'avenir, dans cette compétition entre hackers et ceux qui doivent se défendre, qui voyez-vous prendre de l'ascendant sur l'autre ?
Ce n'est pas une question d'ascendant. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les gendarmes et les voleurs. Vous ne pouvez pas appréhender, nous on n'est pas des gendarmes, mais on ne peut pas appréhender un voleur tant qu'il n'a pas commis son délit. D'accord ? Nous, notre métier, c'est d'analyser, de rentrer, on va dire, quelque part un peu dans l'esprit des hackers pour essayer de comprendre la façon dont ils réfléchissent pour mener une attaque. Et nous, on se dit, s'ils veulent mener cette attaque de telle façon, il va falloir qu'on invente des outils pour les contrer de telle autre façon. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le risque, la sécurité absolue, ça n'existe pas. D'accord ? Nous, on essaie d'être toujours le plus proche possible. Ceux qui vont vous dire que leur outil, il arrête 100% de toutes les menaces et autres, j'ai envie de dire, attention, ça sent peut-être pas l'arnaque, mais pas loin. Donc, il faut vraiment regarder les outils que l'on prend. Maintenant, oui, on va être toujours derrière les voleurs ou derrière les hackers, mais ce qu'on essaye, c'est d'être le plus proche possible. Devant, on peut pas. Sinon, le monde serait sûr et c'est pas possible.
Merci à vous, Pascal Naudin. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial en Afrique francophone de Kaspersky. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup et puis je pense à une prochaine.
Destination Écho.
Et nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Est pour nous poser au pays des mille collines. Vous l'avez bien compris, je vous parle du Rwanda. Le Rwanda, un pays qui impressionne depuis un moment par ses performances économiques et par sa bonne gouvernance. Et pour en savoir plus sur cette économie anglophone, nous retrouvons, comme chaque semaine, Mustapha El Bouri, le directeur général du cabinet Best Afrique, qui nous fait le point donc sur l'économie rwandaise.
Le Rwanda est un petit état d'Afrique de l'Est. C'est un pays qui est enclavé en fait, hein, et il est très densément peuplé. En effet, le Rwanda possède une population d'environ 12,5 millions d'habitants pour une superficie de seulement 26 km², ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique et peut-être même du monde. Le Rwanda est un pays vraiment qui a réalisé des progrès énormes et spectaculaires, je dirais même, en termes de développement, si l'on considère qu'il y a eu dans ce pays, comme tout le monde le sait, un génocide, une guerre civile en 1994. Si on fait un peu le bilan de la dernière décennie, on se rend compte que le Rwanda est un pays vraiment qui est parvenu à mettre en place d'importantes et d'énormes réformes économiques, mais également structurelles. Toutes ces réformes lui ont permis de maintenir vraiment une croissance qui est très soutenue. Sa capitale, Kigali, qui est maintenant connue au niveau international, se rêve également d'être une ville verte. Kigali est également une ville très propre, à l'instar d'ailleurs de tout le pays. Par exemple, je jetais un papier ou autre déchet par terre, Rwanda, dans tout le pays, il est passible d'une amende de 50 000 francs rwandais, qui fait quand même l'équivalent de 50 dollars, donc c'est une somme énorme, qui fait que, en fait, on se rend compte que personne ne le fait d'ailleurs, et ça restreint les personnes à jeter les déchets dans les poubelles qui sont mises en service pour ce besoin. Et qui en fait vraiment un pays très très propre. Le Rwanda est également un modèle économique. C'est vraiment un modèle économique pour l'Afrique. Il affiche l'un des plus forts taux de croissance en Afrique à deux chiffres. Si on regarde un peu plus près, on se rend compte que le Rwanda, il aspire en effet à devenir une économie à revenu intermédiaire d'ici une quinzaine d'années, donc à l'horizon 2035, et à rejoindre également les pays à revenus très élevés à l'horizon 2050. Pour y arriver, le Rwanda, en fait, il accorde une attention très particulière au secteur des PME, voilà, parce que les PME représentent quand même une grosse partie des activités du pays. En effet, près de 98%, soit pratiquement toutes les activités, proviennent des PME. Et en termes de création d'emplois, ces PME représentent un peu plus de 40% de tous les emplois créés dans le secteur privé. Voilà, donc c'est un secteur très important pour l'économie du Rwanda, et c'est pour ça qu'il y accorde une attention vraiment très particulière. Et c'est un pays également qui se positionne comme un hub technologique. C'est vraiment un hub technologique, un hub financier et un hub d'affaires. C'est un pivot en fait entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est souvent la zone privilégiée par les entrepreneurs marocains pour faire des affaires avec l'Afrique. Pourtant, l'Est a tout autant d'opportunités à offrir. Et le Rwanda, en particulier, bénéficie d'un positionnement stratégique sur le continent, aussi bien géographique qu'économique.
Les entreprises marocaines commencent à s'installer au Rwanda, notamment dans les domaines financiers, les banques, les assurances, et progressivement dans l'immobilier. Les opportunités de partenariat avec le Maroc donc sont immenses, comme nous le dit Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique.
Donc si on devait citer quelques secteurs qui offrent vraiment de nombreuses opportunités d'affaires, sur lesquels le Rwanda est demandeur de projets pilotes, je citerai l'énergie, je citerai l'agriculture et sa modernisation, sa transformation, ou encore le tourisme, et notamment le tourisme d'affaires. Donc le Rwanda, de par sa position vraiment stratégique au centre de l'Afrique, représente de nombreuses opportunités d'affaires pour les entreprises marocaines à la recherche d'une porte d'entrée vers le continent. Le Rwanda, c'est assez récent, mais le Rwanda et le Maroc ont amorcé en 2021, donc l'année dernière, une nouvelle phase de développement de leurs relations de coopération. Et cette nouvelle phase de développement, elle reflète vraiment une ambition commune d'aller de l'avant sur la voie d'un partenariat qui est stratégique et renouvelé. Je terminerai en disant que le Maroc et le Rwanda sont aujourd'hui plus déterminés que jamais à asseoir un partenariat stratégique tourné vers l'avenir.
C'est tout aujourd'hui pour Coémergence. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Medium et je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur nos antennes.